Studio Tamani, voici les informations en français.
18h à Bamako, même heure dans toutes les communes du Mandé, auditeurs, auditrices, bienvenue dans cette édition. Je suis Fatia Tara, Adjaratou Traoré, assure la technique. Voici les titres. Les trafics routiers s'améliorent au centre et au nord du pays. Dans les localités concernées, les prix des denrées alimentaires ont également diminué. Des criquets continuent d'envahir des champs dans les pays. Leur présence a été annoncée dans cette région. Football, sport, les stades maliens de Bamako qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Une qualification acquise à une journée de la fin de la phase de groupe. Bienvenue sur cette édition. Comme je le disais dans les titres, le trafic a repris la semaine dernière sur les axes routiers Bandiagara, Bankass et Gao, Kidal au centre et au nord du pays. Cette reprise de la circulation des personnes et des biens commence déjà à avoir un impact positif sur les marchés de ces différentes localités, rapportent des habitants. Mais malgré ces constats positifs, des difficultés perdurent. Un reportage signé Oumar Togola.
Au centre du pays, le trafic a repris sur la route nationale 15 la semaine dernière. Selon des sources locales, les poids lourds et les camions chargés de marchandises circulent librement de Bandiagara à Koro en passant par Bankass. Elles indiquent également que la réouverture de ces tronçons favorise la reprise des activités économiques et le renforcement des liens entre les communautés.
Cette reprise nous a fait énormément plaisir. Maintenant, les activités ont repris et les marchandises arrivent normalement.
Nos produits viennent maintenant. L'huile, les cubes magie, le sucre et tout ce qui vient de Sikasso. Beaucoup de produits sont là, même s'il n'y a pas une baisse au niveau des prix.
À Kidal, au nord du pays, des transporteurs confirment également la reprise timide du trafic sur certains axes routiers menant à la ville de Kidal. Modibo Diané est membre des transporteurs routiers de la région.
Les petits véhicules, en plus, les camions circulent librement. Mais il y a aussi l'escorte militaire avec lequel d'autres camions s'emballent pour partir entre Kidal et Gao et entre Kidal et Algérie. L'axe Kidal-Menaka n'est pas encore ouvert. D'autres localités telles que Adelhok, Tessalit, ça ce sont des zones où, à part les militaires, bon, vraiment la plupart des gens, personne ne fait ça.
Selon des habitants, les prix de certains produits alimentaires ont connu une baisse grâce à cette reprise du trafic routier. Toutefois, il faut souligner que le trafic reste bloqué sur tous les axes routiers menant à la ville de Menaka.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. De lourdes conséquences peuvent découler du retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est du moins ce qui ressort du communiqué final du sommet extraordinaire des chefs d'État de l'organisation sur la situation politique, la paix et la sécurité dans la région le 24 février dernier à Abuja. Les détails avec Maria Meiga.
Selon le communiqué, le retrait aura des incidences sur la coopération en matière de sécurité, d'échange de renseignements et de participation aux initiatives régionales de lutte contre le terrorisme, notamment l'initiative d'Accra et les activités de la force multinationale mixte. Par ailleurs, l'organisation sous-régionale rappelle qu'il peut avoir comme conséquence l'arrêt des projets et programmes de la CEDEAO au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Ces projets se chiffrent, selon le document, à plus de 500 millions de dollars, soit près de 302 milliards de nos francs. Dans le même ordre d'idées, l'instance sous-régionale annonce la fermeture de 4 agences nationales au Burkina Faso, de 2 organismes régionaux au Mali et d'un bureau régional au Niger. La CEDEAO attire l'attention de 3 pays de l'AES sur la disposition de l'article 91 du traité révisé de la CEDEAO de 1993. Cet article stipule que les pays membres restent tenus de leurs obligations pendant une période d'un an après avoir notifier leur retrait.
Sur tout autre sujet, les criquets pèlerins envahissent depuis la semaine dernière cette région et 32 villages au Mali, selon les services de la protection des végétaux. Et pour des élus locaux, ces insectes ont causé d'énormes dégâts dans les cercles de Barawili et Nyono. Plus de détails avec Sita Sidibé.
À Barouli, dans la région de Ségou, les autorités locales affirment que les insectes nuisibles ont été aperçus dans plus de 7 villages du cercle où ils ont déjà ravagé des champs d'anacardier. Chekena Tunkara, maire de la commune de Barouli.
Dès que j'ai appris l'information, j'ai parlé avec le préfet pour que je puisse aller dans le village de Bakurobabuku afin de faire le constat de la situation. Arrivé sur les lieux, j'ai vu que les criquets sont présents dans ce village. Et après, il y a un paysan qui m'a informé que son jardin a été ravagé dans le village de Tafalamarka par ces criquets.
La même situation est dénoncée par les autorités locales du cercle de Nyono. Selon elles, des hectares de plantations ont été détruits par ces criquets et la situation est alarmante. Soumaïla Diara, enseignant et conseiller communal à la mairie de Mulodo.
J'ai 2,5 hectares plantés de manguiers. J'ai vu vraiment des criquets envahir tout mon jardin. Ils ont tout ravagé. Il y a les villages de Nyemineni, Sokurani, il y a Nyafashi et Manyale. Il y aura plus de quêtes cette année. Plus de 20 hectares qui ont été tous ravagés.
Toutefois, il faut noter que la direction de la protection des végétaux a affirmé que des dispositions sont en cours pour lutter contre l'invasion de ces criquets. Mais pour les populations sur place, ces mesures s'avèrent pour le moment insuffisantes.
Sport football Coupe de la Confédération africaine. Le stade malien de Bamako est qualifié pour les quarts de finale. En basketball homme, le Mali connaît désormais ses adversaires pour les prochains Afrobasket. Résumé sportif avec Oumar Waigalo.
Le stade malien de Bamako continue son aventure sur le continent africain. Lors de la 5e journée des phases de poules, les Blancs de Bamako se sont imposés face au Diable Noir du Congo Brazza. L'unique but de la rencontre a été marqué par Lassine Kouma à la 90e minute. Cette réussite permet aux représentants maliens de poursuivre la campagne africaine à une journée de la fin de la phase de poules. Par ailleurs, la 18e journée du championnat national Ligue 1 a pris fin ce week-end. Les Djoliba AC a battu FC Binga par 3 buts à 0. L'AS Real a dominé l'AS Bakaridjan sur le score d'un but à 0. Le stade malien a été tenu en échec par l'ATS de Koro. Le score était d'un but partout. En ce qui concerne les classements, l'AS Real occupe la tête du championnat civil de Djoliba AC et du stade malien de Bamako. En basketball masculin, le Mali connaît désormais ses adversaires de la poule A pour les éliminatoires de l'Afro Basket 2025. Il s'agit du Mozambique, le Soudan du Sud et la RD Congo. Pour le moment, la Fédération internationale de basketball n'a pas encore dévoilé les pays organisateurs de cette édition à venir.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni, par l'Union européenne et la coopération espagnole.
Depuis quelques jours, des publications sur les réseaux sociaux parlent de la découverte des diamants dans les cercles de Kenyeba, région des Kai. Info ou Infox, Fatmata Kodjo a vérifié pour vous. Écoutez.
De nombreuses personnes ont partagé l'information selon laquelle il y aurait l'existence de diamants à Kenyeba. Une source locale que nous avons contactée sur place affirme qu'il y a bel et bien du diamant à Kenyeba. Elle confie que cela ne date pas d'aujourd'hui et que des personnes ont déjà eu cette pierre précieuse dans la zone. Le ministère des Mines dément l'information. Selon son chargé à la communication, c'est un fake. Il ajoute que le ministère n'est pas au courant de cette situation.
Eh bien, notre chronique Zoom sur s'intéresse à des personnes vraiment uniques en leur genre. Nous en avons tous certainement un chez nous ou même dans les quartiers. Il s'agit des personnes super propres et qui ne tolèrent jamais une saleté. C'est avec Lale Tangara.
Eh oui, il s'agit de cet ami, frère, tonton, tanti ou même grand-parent qui ne digère pas du tout les saletés ou les désordres. Dès qu'il en voit, il se met à le ramasser. Certains même pensent qu'ils ne sont pas normaux. Il y en a qui, une fois arrivés à la maison, ils se mettent à vérifier partout, que ce soit dans la chambre, la cuisine, même les toilettes, pour voir si tout est à sa place ou s'il n'y a pas de poussière sur les objets. L'exemple typique est l'oncle de mon ami Mouna, qu'on a surnommé Tonton Propre. Dans sa famille, tous les jours, avant la descente, sa femme et ses enfants se mettent à nettoyer la maison et arrangent tous les objets afin qu'ils puissent avoir le sourire une fois rentrés. Souvent, des personnes qui cohabitent avec ces super propres ont du mal à les comprendre. Elles les taxent souvent des gens qui dépassent les limites ou aiment se faire voir, mais qui n'aime pas que les choses soient en ordre ou bien propres dans sa maison.
C'est ce qui met fin à ce journal, auditrices, auditeurs. Merci de nous avoir suivis. Pour réécouter ce journal, appelez gratuitement sur Viamo au 3731. Vous pouvez retrouver également toutes nos productions sur l'application Studio Tamani, rechargeable sur Play Store. Après notre magazine, vous aurez notre débat en rediffusion du 18 janvier 2024. Les thèmes, c'est la corruption, la répression est-elle efficace? Dans les magazines gouvernance et citoyenneté d'aujourd'hui, nous allons parler de la prise en charge d'urgence des patients. Que dit la loi sur la prise en charge des victimes des coups et blessures volontaires au Mali? C'est le thème de notre magazine gouvernance et citoyenneté de ces jours. Les victimes d'agressions physiques ou d'accidents sont considérées comme des cas d'urgence dans les établissements hospitaliers. Pourtant, selon des témoins, les médecins des centres de santé exigent généralement un document de la police avant de s'occuper de ce type de blessés. Qu'est-ce qu'expliquent les refus des médecins? Ce numéro de magazine Gouvernance et Citoyenneté est présenté par Moussa Malé Sissoko avec le concours de nos correspondants.
Au Mali, les victimes d'agressions physiques et celles d'accidents de la route rencontrent des difficultés dans leur prise en charge. Leur accès aux premiers soins dans les hôpitaux est souvent protocolaire, disent-ils. Cet habitant de Ségou nous raconte sous couvert d'anonymat un fait dont il a été témoin.
J'ai été témoin d'un accident à Ségou. Suite à une bagarre, une personne s'est blessée et les médecins ont exigé à ce qu'elle ait une autorisation de la gendarmerie avant qu'elle ne soit prise en charge. Je pense qu'il faut d'abord soigner le malade avant de chercher la cause de la blessure. En cas d'incendie, on éteint d'abord le feu avant de chercher les causes. C'est pareil pour un malade qui se rend à l'hôpital. Il faut d'abord le soigner.
Mamadou Camara, un habitant à Maïna, nous livre aussi sa mésaventure avec les agents de santé de Bafoulabé sur un cas d'accident.
J'ai une fois amené un élève victime d'un accident à l'hôpital dans le cercle de Bafoulabé. On m'a exigé une réquisition alors que je ne faisais qu'aider la personne qui avait cogné un arbre. Ils m'ont clairement dit que sans réquisition, ils ne vont pas toucher aux malades. Alors j'ai pris ma moto et je suis parti.
Que disent les textes en matière de prise en charge d'une victime d'agression ou d'accident? Docteur Modibo Doumbia, président de l'Ordre des médecins de Bamako, répond.
Normalement, le médecin est tenu d'informer l'officier de police judiciaire parce que ça permet de couvrir le médecin et de couvrir l'établissement. Parce que les victimes peuvent être agressées par un inconnu, peut-être qui est recherché même par les services de renseignement et autres. Donc, s'il est signalé, ça permettra d'orienter mieux ce service judiciaire.
Cependant, Dr Doumbia précise que cette disposition ne doit pas s'appliquer dans tous les cas. Car, dit-il, tout médecin se trouvant en présence d'un blessé en péril doit lui porter secours.
La prise en charge des patients n'attend pas souvent la réquisition. Quand le pronostic vital du patient est engagé, rien ne doit retarder. Le médecin peut prendre en charge le patient. Il faut sauver la vie d'abord. Mais la police de proximité de l'hôpital est informée.
Cette disposition n'est pas connue de tous, affirment ces habitants de Yorosso, Ségou et de Bamako.
Une blessée grave vient à l'hôpital. La prise en charge n'est pas du tout immédiate.
Arrivé à l'hôpital, il faut faire les premiers soins. On va voir ce qu'il y a lieu de faire.
On peut laisser souvent de côté la loi et regarder le bon sens des choses et essayer d'arrêter l'hémorragie.
Docteur Bourema Kelly, commissaire à la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, pointe du doigt un manque de communication.
Il y a un problème de communication entre les différentes parties, notamment entre les professionnels de la santé et les usagers, et aussi entre les usagers et la police, et entre la police et les professionnels de la santé. Mais celui qui est au centre, ça c'est l'intérêt du patient. Tout le monde devrait œuvrer à ce que les droits soient respectés. Mais cette réquisition de prise en charge ne doit en aucun cas retarder l'offre des soins. Il y a des insuffisances souvent dans notre système de santé qui font que souvent quand les patients arrivent, ils ne sont même pas accueillis. Souvent on dit que non, il n'y a pas de place. La loi hospitalière en est claire.
Pourtant, de l'article 7 à 12 de la loi hospitalière de 2002 explique largement la prise en charge des cas d'urgence. Selon l'universitaire Dr Mamadou Guissé, le médecin ne doit pas refuser l'assistance à un malade. La non-intervention du médecin est assimilable à la non-assistance d'une personne en danger.